On va relire à partir du verset 1 le chapitre 12 de la lettre de Paul aux Romains. Je lis dans la version second 21 à partir du verset 1 du chapitre 12. On a déjà étudié les deux premiers versets, mais il est bon de se les remémorer. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Les deux premiers versets que nous avons regardés la semaine dernière étaient intéressants. C'était notre, en quelque sorte, la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et la relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est une relation de mise à disposition de nos ressources, de notre être entier. Et il comparait cette mise à disposition, cette présentation, comme un sacrifice que l'on étudie dans l'Ancien Testament, ces sacrifices qui étaient encore offerts à Jérusalem à l'époque de Paul, l'idée c'était qu'on offrait quelque chose qui coûtait pour honorer Dieu. Et là, il nous dit de nous offrir comme des sacrifices vivants. Et ça, c'est saint, c'est pour être mis à part et pour plaire à Dieu. Et Paul est un grand intellect et il aime beaucoup la raison. C'est en même temps quelqu'un de très spirituel, mais les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. La raison et le spirituel, notre raison peut être rachetée par l'esprit et nous servir comme un instrument important. Il dit s'offrir en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, c'est logique. Au vu de toutes les compassions que Dieu nous a accordées, c'est la seule chose qui fasse sens, comme on dit aujourd'hui. Et puis il nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'on ne doit pas être moulé par le monde extérieur, mais au contraire, on doit être renouvelé par l'intérieur. Soit on est conformé, c'est une force qui vient de l'extérieur, soit on est transformé de l'intérieur. Et on est transformé par le renouvellement de notre compréhension des choses spirituelles, de notre compréhension des choses qui nous entourent. Et ça nous permet de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot discerner, peut-être que dans votre version, il y a le mot prouver. c'est, ou d'autres diront découvrir, et ça vient du mot qui veut dire faire une expérience. Quand on fait de la science, on fait des expériences. Et le mot veut dire établir la certitude d'une chose, déterminer, connaître sans l'ombre d'un doute. Si nous avons notre intelligence renouvelée, au lieu d'être moulée par le monde qui nous entoure et qui rejette Dieu, alors nous allons pouvoir discerner, nous allons pouvoir connaître la volonté de Dieu. Et puis là, il va passer dans ce chapitre 12. Alors quand il écrivait, il n'avait pas des chapitres. Les chapitres sont venus beaucoup plus tard pour nous permettre de nous retrouver dans la Bible et de savoir de quel passage on parle. Et donc là, il va parler maintenant des relations du chrétien avec les autres chrétiens dans les versets 3 à 8 qu'on vient de lire. Puis on verra les relations du chrétien avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Et puis même plus loin, il va nous parler de notre relation avec les autorités, avec le gouvernement. Et puis il passera à d'autres devoirs envers les autres. Mais il y a d'abord la chose plus importante, c'est notre relation verticale avec Dieu. Comment est-ce que chaque jour je me présente à Dieu ? Est-ce que je viens en me disant « Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux ?» Si je suis honnête, j'arrive avec mes projets et je lui dis « Voici mes projets, Seigneur, bénis-les. » Et quand il m'interrompt, ça m'embête. Ma première réaction, c'est de rechigner, de rouspéter. « Oh non, Seigneur, non, j'avais pas prévu de faire ça. Je vais prendre du retard sur mon emploi du temps. Tu vois pas que j'ai une liste de choses à faire, que j'ai tapé sur mon ordinateur. Maintenant, c'est formidable, on peut taper sur son portable une liste, on la retrouve sur son ordinateur, on la retrouve sur son iPad. On est cerné de partout par la liste des choses à faire. Et puis le Seigneur arrive et puis... il nous demande d'aller aider quelqu'un ou il fait venir quelqu'un qui est dans le besoin. Mais c'est en étant disponible qu'on va pouvoir connaître sa volonté. Peut-être sa volonté aujourd'hui, c'est pas que je répare la lampe ou que je prépare mon étude biblique pour la semaine prochaine, mais sa volonté, c'est que j'aille rendre visite à telle personne qui est dans la détresse, qui est dans le chagrin, qui a besoin d'aide. Quelqu'un disait qu'en fait, lorsque Christ est remonté dans les cieux, à l'ascension, il va revenir, mais en attendant, nous sommes son corps. On va y revenir en parlant plus en détail. Mais si je ne parle pas à quelqu'un de l'amour de Dieu et que Dieu m'a demandé de le faire, c'est comme si en fait je bouchais la bouche à Dieu, à Jésus. Je lui mettais un baillon sur le visage, sur la bouche. Je disais non, tais-toi. Parce que lui, il compte sur moi, il n'a pas d'autres personnes, enfin il a plein d'autres personnes, mais dans le moment présent, quand il m'appelle à faire quelque chose, je suis sa voix, je suis sa bouche. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Paul commence à parler des gens dans l'Église, des chrétiens, des frères et des sœurs, la première chose qu'il nous signale, il veut nous mettre en garde contre une première chose, c'est d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que vous pensez que Paul se sent obligé de nous dire ça et de nous le dire en premier parmi toutes les instructions qu'il va donner? Je pense que c'est parce que c'est un problème que nous avons tous. Il le fait par la grâce qui lui a été donnée. La grâce, c'est l'amour de Dieu, c'est qui n'est pas mérité. et qui est simplement donné. Et il pourrait dire, en vertu de mon apostolat, moi, le grand apôtre Paul, qui ai tant souffert pour le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis de faire telle et telle chose. Non, il vient humblement nous demander d'être humbles. Ça me fait sourire parce que j'avais offert à une époque à ma femme, pour son anniversaire, un livre sur l'humilité. C'était écrit par un auteur d'Afrique du Sud, Murray. Et Nancy aime bien cet auteur. Et j'avais trouvé ce livre que je ne connaissais pas. Et j'avais pensé, tiens, je vais lui offrir ce livre. Elle m'a dit, mais pourquoi tu m'ouvres un livre sur l'humilité? Et en fait, franchement, il n'y avait pas de... C'était pas une critique pour dire qu'elle avait besoin d'être plus humble dans son comportement. Mais voilà, il nous demande d'être, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Invitation à l'humilité, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la Bible. Ésaïe nous disait dans Ésaïe 5, 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. » Proverbe 25, 27, « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. » Il paraît que si on en mange trop, ça peut nous donner des hauts le cœur. « Ni glorieux pour les hommes de rechercher leur gloire. » Il y a l'histoire de ce jeune pasteur qui venait d'un des meilleurs séminaires du pays, qui arrivait, il venait d'être nommé pasteur d'une église, il prêchait ce matin-là son premier sermon. Il connaissait le grec, l'hébreu, il avait passé des heures à préparer son message. Et il était arrivé sur l'estrade ou au pupitre, l'air assez orgueilleux, l'air assez arrogant. Et dans son cœur, il pensait qu'il allait enfin annoncer des choses solides à cette congrégation qui semblait bien faible. Et puis, quand il a commencé à parler, il s'est un peu embrouillé les pinceaux. Il a perdu confiance en lui-même. Ça s'est terminé où il était vraiment dégoûté de lui, il est redescendu penaud, et il y a une femme qui avait beaucoup de maturité dans le Seigneur et qui lui a dit, jeune homme, si vous étiez arrivé comme vous êtes reparti, vous seriez reparti comme vous êtes arrivé. On se calme, on est modeste, parce que c'est pour moi, l'humilité, la modestie, c'est simplement du réalisme. Il faut bien réaliser qu'il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent, de plus brillant, de plus efficace, de plus formidable que vous ne pouvez l'être. Je vais repartir comme je suis arrivé, là. Je perds mes notes, là. Je disais, si Jésus veut encourager par des paroles bienveillantes, il va utiliser nos bouches. S'il veut exprimer des larmes de compassion, il va utiliser nos yeux. S'il veut étendre sa main vers une personne dans le besoin, il va utiliser nos mains. S'il veut embrasser quelqu'un qui a besoin d'affection, il va utiliser nos bras. Si Jésus veut marcher jusqu'à la maison de quelqu'un pour lui parler, il va utiliser mes pieds. Et comme je disais, si je refuse de parler, si je refuse d'aller, c'est comme si j'immobilise, je restreins le Seigneur. Il va recourir à une illustration, Paul. Qu'il l'utilise souvent. C'est la première fois qu'on la rencontre ici, mais il va l'utiliser dans 1 Corinthiens 12. Je vais vous rappeler le texte dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres chacun pour sa part. Cette image vitale du corps. J'ai pas le temps vraiment de lire ce texte-là, mais il y a un livre qui s'appelle « Tes œuvres sont admirables ». C'est par un docteur très connu, le docteur Paul Brand. Et l'auteur est chrétien connu, Philippe Yancey. Et là, c'est tout un livre qui est consacré au corps humain et à combien il est merveilleux, combien il est incroyable. Seul problème, c'est que ce livre qui avait été traduit en français par la Ligue de lecture de la Bible est hors, on le trouve plus. Il est en rupture de stock depuis longtemps et j'ai pas l'impression. Je vais peut-être leur écrire pour demander s'ils peuvent le republier. Et j'avais une copie de ce livre que j'ai offert à un docteur, pensant que je pourrais le remplacer rapidement. Ça fait bien 20 ans que j'ai plus retrouvé ce livre. Il existe en anglais. Your works are wonderful. Wonderfully made. Et vous pouvez même le télécharger en audio ou le mettre le télécharger en livre sur votre portable. Mais c'est en anglais. Mais c'est un livre remarquable qui montre la façon extrêmement ordonnée, coordonnée, dont le corps humain fonctionne, dont les cellules fonctionnent. Les ingénieurs se penche sur le corps humain pour savoir comment on peut faire quelque chose qui est aussi léger que des os, mais qui est aussi résistant, les fibres qui composent un os, quand on les regarde au microscope, les cellules, c'est absolument fantastique, c'est passionnant. On est émerveillé par la structure du corps. Et il veut nous dire, donc, il va nous parler du corps, ici. Juste pour revenir sur l'orgueil, il y a quelque chose à souligner, c'est que on peut être très orgueilleux, dire que je suis le meilleur, regardez ce que j'ai fait, se prendre en selfie sur Facebook. Ça, je ne vise personne, ni moi-même, mais c'est drôle, sur Facebook en général, on ne met que des photos où on a l'air plutôt bien. Non, on ne met pas les photos quand on est tombé le nez dans la poubelle ou si on le faisait, ce serait pour impressionner les gens avec notre humilité fantastique. Il y a l'orgueil, être conscient de soi-même, et puis il y a un orgueil un peu déguisé qui est se mépriser soi-même. « Oh, je ne vaux rien du tout. Non, je suis... » Là, Paul dit « Ne pas avoir une trop haute opinion de vous. » Il n'est pas d'avoir une basse opinion de nous-mêmes parce que nous sommes créés par Dieu à l'image de Dieu. Et donc, il y a cette fausse modestie et même cette timidité que certains peuvent avoir, qui est souvent la première chose par laquelle on passe, quand on manque d'assurance, qu'on ne connaît pas grand-chose, on est timide. Et des fois, on est paralysé par la timidité. Mais cette timidité qui nous paralyse, c'est la preuve qu'on donne une grande importance à notre propre image auprès des autres. Un enfant est timide, mais il se moque pas mal de savoir qu'est-ce que vous pensez de lui. Daphné va commencer à être sensible à l'image, à la réponse des autres. Mais Django, il sera là, il sourira, il n'aura aucune timidité parce qu'il n'aura pas, il ne donnera pas d'importance à son image. Et donner de l'importance à son image, c'est une façon de montrer de l'orgueil. Tout ça pour dire que il faut vraiment être très conscient de cet orgueil, de cette image qu'on a de nous-mêmes. Et personnellement, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais on pense qu'on a une pensée très raisonnable et très, très intelligente des choses. Et ça fait du bien quand je commence à me dire, mais en fait, c'est ton opinion, mais peut-être que tu es complètement dans le faux. Tu penses ça parce que tu as telle expérience ou tu as telle conviction et tu penses que ça doit se venir dans ce domaine. Mais c'est libérateur de se dire qu'après tout, peut-être que je me trompe. Et franchement, ce n'est pas une idée que j'entretiens souvent de dire peut-être que je me trompe. Et je vous renvoie la question, est-ce que des fois vous vous dites, peut-être je me trompe? Ou est-ce que vous êtes tellement... C'est fou combien on s'entend parler, combien l'ego, mes pensées viennent de moi, de moi. Quand je me parle, heureusement il y a l'influence de ce qu'on me dit, l'influence de la parole, il y a l'Esprit Saint en moi. Il nous demande donc d'avoir des pensées raisonnables. Et quand on a ces pensées raisonnables, on s'aperçoit que comme dans le corps, on est interdépendant. Il y a beaucoup d'images pour décrire l'Église. On parle dans la Bible du bâtiment dont Jésus est l'architecte et la pierre d'angle. On parle du troupeau dont Jésus est le berger. On parle d'une armée dont Jésus est le général, le chef, une épouse même dont Jésus est le mari, mais l'image qui revient le plus souvent, surtout sur la ligne, sous la dictée de Paul, sous la plume de Paul ou celle qu'il dicte, c'est celle du corps, et Jésus en est la tête. Et Pierre nous dit que chacun, dans 1 Pierre 4, 10, chacun a reçu un don qu'on doit mettre au service des autres en bon intendant de la grâce de Dieu. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, selon ce que le Saint-Esprit a voulu nous donner comme don spirituel. Ici, c'est le seul endroit où il est question de dons spirituels, des charismata en grec, qui nous donne le mot charismatique. La plupart des autres endroits où il est question de dons, c'est le mot spirituel. Les spirituels, dans 1 Corinthiens 12, il parle des choses spirituelles, des dons. Le mot don n'est pas là, ici il est présent. C'est vraiment quelque chose qu'on reçoit et dont on n'a aucune raison de s'enorgueillir, de se vanter. Tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a, on l'a reçu. Que ce soit nos capacités intellectuelles, notre aspect physique, c'est même la volonté de travailler, de faire de l'exercice, de faire des études, tout ça c'est des choses qu'on reçoit. Pourquoi est-ce qu'on a si tendance à s'en enorgueillir? C'est le péché qui fait ça. Le diable, il a été caractérisé par son orgueil. Il voulait se faire aussi haut, aussi grand que Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été rejeté par Dieu, qu'il est un ange déchu. Mais notre vieille nature est affectée par ce péché. On pense tous qu'on est supérieur aux autres, qu'on est plus important. Et c'est vrai qu'on voit le reste du monde à travers nos propres sens, donc on est sans trop dans nos vies, mon ego. Mais il faut s'en prémunir ou il faut en être conscient pour ne pas tomber dans les excès qui pensent que c'est moi sur qui tout repose, c'est moi qui dois tout faire. Il y a 7 dons dans ce passage jusqu'à la fin qui sont évoqués, on va les voir rapidement. Il parle, si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. La prophétie, c'est pas seulement, comme dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, prédire des choses futures sur Dieu, sur l'Église, sur le monde. C'est surtout proclamer la vérité. Déclarer, proclamer la parole de Dieu avec affirmation, confiance, déclarer clairement les conséquences du péché. Et le plus souvent, c'est donc répéter des choses qui sont déjà déclarées dans la parole. De nos jours, il n'y a pas vraiment de prophète au sens des prophètes Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel et Daniel, ou des petits prophètes, on les appelle petits parce qu'ils ont un moindre volume d'écrit, mais ils sont tout aussi importants. C'est simplement déclarer. Et une chose qui est importante, c'est de voir que lorsque Jésus était sur terre, bien qu'il soit le Fils de Dieu, ce qu'il a accompli de façon divine et spirituelle, c'est en ayant recours aux dons spirituels. Vous vous souvenez lorsque il avait repris la Samaritaine en lui disant, il lui avait dit, va, appelle ton mari. Il avait dit, j'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit, tu as bien fait de le dire parce que tu n'as pas de mari, mais tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle avait senti cette vérité qui était déclarée. Le don de service. Nous avons... Si un autre est appelé à servir, c'est avoir le don de service. On parle d'un vieux mot, le mot diaconat, un diacre. Il y a des diaconesses, ce sont des femmes qui servent dans l'Église. Si le don de prophétie, c'est proclamer la vérité, les besoins spirituels, le don de service, c'est illustrer la vérité. Ça répond à des besoins pratiques. Il est question, on a l'exemple de Jésus qui lavait les pieds de ses disciples. Et puis il y a le don, verset 7, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Le don d'enseignement, c'est le don d'expliquer la vérité, répondre à des besoins intellectuels. C'est exposer, clarifier, rendre la vérité vivante. Jésus avait ce don comme personne d'autre. Il était à même de prendre des citations de l'Ancien Testament et de les développer. Il disait, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il a été dit que celui qui... que vous ne devez pas tuer quelqu'un, mais moi je vous dis, celui qui tue quelqu'un par des paroles est aussi coupable de meurtre. Entre parenthèses, si on a le don d'enseigner, si on se sent appelé le don à expliciter la parole de Dieu, un des tests fondamentaux, c'est de savoir si on a aussi le don d'étudier. Est-ce qu'on a envie de plonger dans la parole et envie de l'étudier, de comparer des passages avec d'autres, de rechercher le sens des mots? Si on veut simplement parler sans avoir le désir d'étudier, ça ne va pas aller loin. Paul disait dans 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Très important, le don d'enseignement. Verset 8, « Celui qui a le don d'encourager, qu'il se consacre, qu'il se donne à l'encouragement. » On appelle ça des fois le don d'exhortation. Souvent en français, le « exhorter », ça a un sens un peu fort où on reproche aux gens de ne pas faire quelque chose. Ce n'est pas du tout le sens du mot original. L'encouragement, c'est une meilleure traduction. C'est le mot qui nous a donné le mot de « paraclé ». « Paraclé », c'est une description du Saint-Esprit qui vient comme un avocat auprès de quelqu'un pour le défendre et l'encourager. Barnabas, son vrai nom c'était Joseph, mais Barnabas, Bar ses fils, et Nabas apparemment c'est ce exhortation, c'était un lévite originaire de Chypre, mais il était connu pour être le fils d'encouragement. Les gens aimaient bien le voir parce qu'il venait vous rebooster le moral. Ceux qui ont à cœur de conseiller les gens, faire de la cure d'âme, de parler de la vie des gens, des chrétiens qui ont des difficultés, qui passent par des moments difficiles, il faut qu'ils aient ce don d'exhortation, d'encouragement. Sinon, ça va pas le faire. Verset 8 encore, le don de donner. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Le don de libéralité, comme on l'appelle des fois, c'est soutenir la vérité en répondant aux besoins matériels et financiers. On a des besoins matériels, mais en tant qu'Église, en tant qu'organisation chrétienne qui veut servir le monde autour de nous, Et s'il n'y a pas ce don en action de la part des chrétiens, alors l'Église ne peut pas fonctionner. Jésus, lui qui était riche, s'est fait pauvre pour nous. 2 Corinthiens 8:9, vous connaissez sa grâce qui pour vous, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Pour Jésus, c'était quelque chose de naturel, entre guillemets. C'était son appel. Il était dans toute sa gloire et sa richesse, mais il s'est humilié jusqu'à la croix pour que nous puissions être riches de toutes les richesses spirituelles, et en même temps, il pourvoit aux besoins. Ici, le don de libéralité, ça passe par cette petite boîte, on passe pas le panier, et le Seigneur a honoré cette confiance qu'on lui fait, et on vous remercie pour tous ceux qui participaient par la boîte ou par des virements, si vous avez besoin de... Des fois, on me dit que la fente est trop petite. Je dis, c'est pas grave, on peut faire des par virement. Si la fente était trop large, qu'est-ce qui pourrait se passer avec un trombone? Non. Le don de libéralité, c'est très important. Le don de diriger, verset 8, celui qui a le don, celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. Diriger, organiser, c'est le don, on appelle ça des fois le don de présider, de diriger, c'est administrer la vérité. Il y a besoin d'organisation. Jésus l'a montré lorsqu'il a multiplié les pains, vous savez comment il a demandé aux gens de s'asseoir en groupe de temps et qu'il a donné les pains aux apôtres qui les servaient, et il y avait de l'organisation. Ça ne doit pas être une structure pesante, mais il doit y avoir un ordre pour que tout le monde puisse être béni et servi. C'est le don des fois de... C'est la personne qui des fois n'a pas honte de se mettre devant pour dire « Bon, on va faire comme ça, vous allez chanter là, vous allez chanter le deuxième verset ». Ça, c'est pour ceux qui mènent la louange. Mais on a besoin d'être organisé. C'est frappant lorsqu'on célèbre des funérailles. Les gens sont vraiment accablés pour ceux qui sont proches. Mais on sent que si on ne dit pas « Bon, maintenant, on va passer une minute ». Si vous voulez venir parler de la personne, venez, prenez votre temps, une minute ici, une minute là. Mais les gens ont besoin d'être dirigés. Il n'y a rien de plus terrible que quelque chose où tout flotte, quoi. Et c'est pas pour se mettre en valeur, c'est pour servir un besoin, le besoin d'organisation. Et puis, celui qui exerce la bienveillance, qu'il le fasse avec joie. Là, c'est le don de miséricorde, c'est le don de montrer de la compassion. Matthieu 14, 14, Jésus, quand il sortit de la barque, vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Il leur dit, « J'ai compassion de cette foule, voici 3 jours qu'ils restent avec moi, ils n'ont pas de quoi manger. » Le don de miséricorde, c'est démontrer la vérité, répondre aux besoins matériels et aux besoins d'encouragement. Et vous voyez combien les dons, en fait, se recoupent, et souvent on n'a pas un don à l'exclusion des autres. Et la question, donc, c'est pas de savoir si les dons sont pour aujourd'hui, mais plutôt, c'est une question qui se pose dans certains milieux chrétiens. Mais plutôt de savoir quel est mon don et comment est-ce que je peux l'exercer. Pour revenir à nos incidents de ce matin, et je vais le faire rapidement parce que le temps passe, je vous demande juste 5 minutes. La façon dont vous pouvez savoir quel est votre don, c'est la façon dont vous réagissez à une situation donnée. à un incident, à un problème. Si ce matin, vous avez votre sentiment, ça a été de dire, ou même de l'avoir dit à quelqu'un, à l'avoir dit au pasteur ou à ceux qui s'occupaient de la louange, voilà ce qui se passe quand on ne répète pas sérieusement la louange. Tous les aspects, pas seulement les accords et les chants, mais est-ce qu'il va y avoir quelqu'un pour brancher les micros, quelqu'un pour faire marcher les transparents? Il faut répéter, il faut que ce soit fait. L'idée, c'est de changer les habitudes. C'est de dire, il faut vraiment expliquer, proclamer la vérité. Ça ne marchait pas parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Celui qui a le don, il y a plusieurs personnes qui se sont approchées, et notamment à la fin, quelqu'un qui a réussi à nous projeter quelques paroles, Sébastien. Il a le don de service. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'habitude des ordinateurs, c'est mon métier, peut-être que je vais arriver à maîtriser ce programme, qui ne doit pas être très bon, mais il s'est proposé, il est venu servir. Si vous avez le don d'enseignement, vous allez venir me voir en disant, en fait, tu avais deux problèmes. Le premier problème, c'était de savoir connecter ces choses, ces fils, ces spaghettis. Savoir comment on arrive à projeter ce qui est sur l'ordinateur sur l'écran. Ça, c'est ton premier problème, transmission. Puis le deuxième problème, c'est que la liste des chants n'avait pas été créée. Or, ce programme demande qu'il y ait une liste des chants qui soit préparée à l'avance. Et à ce moment-là, on peut se cliquer là-dessus et l'ordinateur sait où aller trouver les paroles. Ça, c'est le don d'enseignement. Maintenant, je sais pourquoi ça a foiré. Si, au contraire, vous avez le don d'encouragement, vous allez dire l'exhortation. Votre idée, c'est de dire « c'était pas si grave ». Au contraire, c'était spontané. Les quelques chants dont on connaissait les paroles ou ceux qu'on a pu lire, eh bien, ça faisait du bien de chanter sans se dire qu'est-ce qu'on va faire. C'était chouette, c'était spontané. Et une chose excellente, c'est que quand on n'a pas les paroles sous les yeux, on pense plus à ce qu'on dit et on peut mémoriser. Donc ça, c'est l'encouragement. Si vous avez le don de donner, vous dites, il n'y a pas un système qui marche mieux, un logiciel un peu plus sophistiqué, qui tombe pas, qui soit pas dépendant de listes et de choses aussi compliquées. Moi, je vous fais le chèque. Parce que j'en ai marre, j'ai passé une demi-heure à rien faire. On juste parlait avec les uns, avec les autres, c'était pas mal. Mais ça, c'est le don de la libéralité. Et puis, il y a le don de celui qui veut présider, qui veut organiser. Craig essaye d'appeler Lindsay, qui ne peut pas être là ce matin, mais peut-être elle peut nous dire comment brancher, comment faire pour que les paroles soient projetées. Et puis, Diana essaye de relire les instructions, voir si on n'a pas raté quelque chose. Et puis, Diego et Julie, vous pouvez commencer. Tant pis, on va commencer avec les chants qu'on connaît. Ça, c'est le gars qui veut organiser. Et puis, il y a le don, oui, de miséricorde, de bienveillance qui le fait avec joie. Il dit, franchement, c'était un peu décousu, mais la louange était belle. Diego et Julie ont chanté de tout leur cœur. Amen. Et donc, on voit que... Mais en même temps, il faut... Et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont faites. Je ne sais pas si quelqu'un a pensé à préparer des gâteaux ou amener des biscuits ce matin. On va voir. Mais on pense toujours que c'est les autres qui doivent faire ça. Et puis il y a quelqu'un qui l'a fait jusqu'à présent, donc on ne s'investit pas. Et le corps de Christ, au vu des compassions de Dieu, on doit réaliser qu'on n'est pas top, mais on doit travailler ensemble pour sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux que nous travaillions tous ensemble comme le corps, Seigneur. Et cette image est si puissante et si réelle, Seigneur. Il n'y a pas de petits membres qui ne soient pas importants, même ceux qui nous semblent secondaires. Seigneur, s'ils sont malades, tout le corps a mal. S'ils ne fonctionnent pas, tout le corps est malade. Et ce matin, tu nous as donné cette illustration. Si on ne travaille pas ensemble, si on n'est pas au courant de comment faire les choses, ça provoque une disruption, ça gêne le culte, ça gêne le service, Seigneur, et on te remercie pour ta miséricorde, pour ta bonté, et on veut croire que tu as été touché par les chants que nous avons chantés de nos cœurs, Seigneur. Sois glorifié, sois béni par le nom de Jésus. Nous prions. Amen.